Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec les mobilisations du jour. Ce sont celles contre la réforme des retraites qui s'intensifient. La CGT et Sudrail ont annoncé 2 jours de grève à la SNCF les 7 et 8 février et menacent d'un blocage reconductible tous les jours à partir de mi-février. Ça risque d'être la galère pour les usagers, Rémi.
Oui, surtout si vous devez vous déplacer d'abord en train. La CGT et Sudrail donc appellent à 2 journées de grève supplémentaires en plus de celle du 31 janvier, de mardi prochain, à la SNCF. La CGT est le premier syndicat de cheminots. Sudrail en est le troisième. Et ce n'est pas tout. Faute de retrait du texte sur la réforme des retraites, les deux mêmes fédérations proposent une grève reconductible par période de 24 heures dès la mi-février. Donc, pour résumer, grève à la SNCF le 31 janvier, les 6 et 7 février. Et peut-être toutes les 24 heures à partir de mi-février. À cela, il faut ajouter les menaces brandies cette fois par la Fédération FO des Transports qui appelle les salariés du secteur hors SNCF à faire grève 1 heure par jour en début de service dès le 31 janvier prochain. Donc dès mardi prochain, une mobilisation qui vise clairement à désorganiser le fonctionnement des entreprises. Sont concernés les transports routiers et les transports de voyageurs, métro, tram, bus, les transports de fonds, de logistique, de déménagement et de déchets, ainsi que la RATP. FO y représente à la RATP plus de 70% des conducteurs de métro. Enfin, il y a toujours ces appels à cesser le travail dans les raffineries. La CGT Pétrole a prévu des grèves demain et après-demain, ainsi que le 6 février, les mobilisations contre la réforme des retraites, largement approuvées par les Français, en tout cas pour le moment, selon un sondage BVA, 68% des personnes interrogées soutiennent ce mouvement social.
Ouais, donc c'est une large majorité. Faut-il s'attendre à un février noir, Fred Hermel?
Oui, pour une raison très simple, c'est ce qui bloque le plus les gens, ce sont les transports. Et ce sont justement dans les transports que les syndicats ont le plus de pouvoir de convocation. Si ce n'était que le privé, je dirais non, puisqu'on l'a déjà évoqué, les gens n'ont pas forcément envie de faire grève. Et ceux qui ont envie de faire grève dans le privé n'en ont pas les moyens. Voilà. Donc, c'est clair, on peut pas faire.
C'est pour ça qu'ils demandent 1 heure par jour.
Voilà. Bah, c'est, pas idiot, c'est bien. Bah non, bah c'est bien ça. Mais alors, 1 heure par jour le matin, ça veut dire que ça va faire chier tout le monde, quoi. C'est l'heure de pointe pour les gens, pour aller travailler. Donc, oui, les syndicats appuient là où ça fait mal, là où ils peuvent mobiliser. Et je suis sur la paix une grève perlée. Hein. Bon, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Enfin, en tout cas, c'est vieux comme la grève et le syndicalisme. Donc, oui, il y aura des moments très difficiles au mois de février. Mais on ne voit pas de blocage total tous les jours. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des annonces comme ça.
On voit pas. Il y avait quand même 1 500 000 personnes dans la rue.
Non, mais de blocage. On ne voit pas arriver un blocage total comme il y a eu avant à un mois de grève. Il y a des perles, des petites perles comme ça, des petits moments comme ça, histoire des piqûres de rappel des syndicats au gouvernement en disant on ne cède pas. Mais c'est pas un mouvement qui va bloquer le pays. Quoi. Il va faire chier le pays à certains moments, mais pas bloquer le pays.
Mais sauf qu'il y a quand même 2/3 des Français qui sont favorables en fait à un durcissement du mouvement.
On en reparle dans un mois.
Hein. Oui, mais ce qui est assez étonnant, Yael Mélu, est-ce que justement cette majorité française pourrait paralyser le pays?
Ah oui, et je pense qu'il y a un véritable désir, voire un besoin de le faire en réalité, comme un moyen d'expression. Aussi ultime que radical. Au moins, on pourra dire que Macron aura réussi l'exploit, à l'insu de son plein gré, certes, mais de recréer...
De rassembler les Français.
Voilà, de rassembler les Français et de recréer une intersyndicale qu'on n'avait pas vue depuis 12 ans. Mmh. Voilà. Alors même qu'au sommet de l'État, on avait misé sur une résignation des Français. On avait misé, et c'était une stratégie, et c'est encore leur stratégie d'ailleurs, extrêmement cynique, sur un essoufflement des mouvements sociaux. Or aujourd'hui, on voit absolument l'inverse. Il y a eu une manifestation le 19 janvier qui s'est passée formidablement bien, qui a ressemblé...
Un jour.
Oui, un jour, puis c'est le début.
Oui, mais ça s'est bien passé, et ça c'est important.
Et c'est très important.
Merci ça à la police, ça s'est bien passé, parce que la police a tout fait pour...
Ça s'est bien passé. Le soutien populaire, c'est important.
Ça s'est bien passé, parce que les manifestants se sont parfaitement bien comportés. C'était bon enfant.
Et la police a empêché l'envahissement par les Black Blocs. Il faut saluer la police.
Oui,
et aussi
absolument.
Le très bon service d'ordre.
Bien sûr.
Ben, non, parce que si tu vas sur ce terrain-là en disant ça s'est bien passé, l'image est bonne, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un très bon contrôle de la part des services d'ordre et la police qui a empêché la migration des Black Blocs.
Il y a quand même eu un manifestant qui a perdu un testicule.
Lors d'affrontement avec les Black Blocs.
Ouais. Mais le bilan, il n'en demeure pas moins que le bilan est extrêmement positif et qu'aujourd'hui, les mouvements sociaux vont se durcir et j'espère qu'ils iront. J'espère pas le chaos. J'espère juste que, à un moment donné, les voix qui s'expriment aujourd'hui, qui ont été étouffées, qui étaient silencieuses jusqu'à présent.
Qui?
Mais les syndicats, les Français.
Enfin, est-ce que les syndicats, parce que plus personne n'est syndiqué.
Moins de 10%.
Il y a les syndicats et il y a aussi les personnes qui sont hors syndicats. On se souvient quand même des grèves qu'il y a eu au mois de décembre.
Hein, qui ont,
voilà, les contrôleurs,
c'est SNCF.
Bah oui, mais alors, d'accord, qui était hors, c'était complètement hors champ syndical. Et même déjà à l'époque, on avait dit oui, la population, elle va se dresser contre.
La réforme contre les retraites est elle sera jamais enlevée, mais elle est amendée, etc. Attention, il y aura toujours une réforme, tu le sais bien.
La réforme des retraites, ça a quelque chose d'extrêmement particulier, c'est que c'est un véritable enjeu de société. Et les Français sont extrêmement attachés à la retraite.
C'est peut-être ça
que Emmanuel Macron n'a pas fondamentalement compris. C'est un acquis social.
Il a compris, mais il ne peut pas faire autrement.
Mais même le président du Conseil d'orientation des retraites aujourd'hui dit l'inverse. Emmanuel Macron aujourd'hui, il dit ça. Il y a 3 ans, il disait absolument l'inverse.
Dit ça
aujourd'hui. Il y a quelques années, il disait absolument l'inverse.
Oui, mais à l'époque, il était
socialiste. Oui, mais il disait absolument l'inverse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'écrasante majorité des Français sont opposé à cette réforme des retraites.
Est-ce qu'un février noir, Thierry Moreau, peut faire reculer le gouvernement, justement? Parce que là, on voit quand même que la majorité présidentielle commence à se fissurer. On entend les députés des MoDem qui commencent à dire que ça ne va pas.
Bien sûr. Je voulais reprendre Yaël, parce que le Front syndical, certes, sur la première manifestation, il fonctionne. Sur la deuxième du 31, il va fonctionner. En revanche, ils ne sont plus d'accord sur reconductible et blocage. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la CFDT et l'UNSA qui disent « Nous, on est pour des actions ponctuelles et des journées ». Et il sera important de savoir si la deuxième journée, il y a plus de monde que la première.
Exactement.
Ça va être un premier critère.
Absolument.
Et la deuxième, le Front syndical, il éclate dès qu'on parle de la poursuite du mouvement. Parce que les autres syndicats, FO et CGT, eux, veulent des mouvements reconductibles et des blocages. Déjà, le Front syndical, il va exploser.
Non, pour le moment, je vois pas l'explosion parce que pour le moment.
C'est ce qu'ils disent.
Pour le moment, il y a les chauffeurs routiers, les chauffeurs d'autobus, les ambulances, les cheminots, qui sont les raffineries.
CGT.
Voilà. CGT.
Donc, CGT.
Mais qui ont déjà la capacité, je veux dire, de bloquer.
Donc, tu peux pas parler de Front syndical, ça, c'est plus.
Alors, la CGT est majoritaire dans le secteur.
Première chose. Deuxième chose, le débat parlementaire va arriver. Et comme Estelle vient très justement de le rappeler, il y a quelques petites, pas des frondeurs, parce qu'ils veulent pas qu'on les appelle des frondeurs, mais à Renaissance, il y a des gens du MoDem qui veulent pas
même
forcément y aller. Il y a des gens des Républicains qui veulent pas y aller. Donc, de toute façon,
histoire de financer différemment.
Donc, le débat parlementaire va avoir lieu. Et ils savent très bien. Est-ce que je peux finir une phrase? Le débat parlementaire va avoir lieu et il y aura des amendements. Absolument. Et il y aura des améliorations parce qu'ils savent très bien que pour ne pas utiliser le 49.3 ou le 47.1, ils vont être obligés de passer par une amélioration. Et quand je vois un député comme Louis Boyard nous expliquer que si jamais il y a une majorité qui s'esquisse entre d'un côté Renaissance et de l'autre côté les Républicains, ce sera un vote truqué et donc il faut que la rue prennent le pas là-dessus, c'est antidémocratique. Aujourd'hui, on est dans un système parlementaire. Attendons les débats du Parlement. Attendons de voir quels sont les amendements et on verra quel est le texte.
Mais c'est très très important sur ce pseudo débat parlementaire qu'on nous affiche. Il faut bien comprendre ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est l'article 47.1 de la Constitution qui va être utilisé. C'est quoi l'article 47.1?
50 jours.
D'accord.
C'est
50 jours de débat. C'est-à-dire qu'on va greffer la réforme des retraites sur une loi de financement. 50 jours au total, 20 jours à l'Assemblée nationale, dont 3 jours devant la commission. Je veux qu'on m'explique comment on peut correctement discuter, avoir des débats parlementaires en toute sérénité sur un sujet aussi capital en aussi peu de temps.
Je vais t'expliquer.
Alors aujourd'hui, c'est
la solution, c'est que l'ANUPS n'abreuve pas le Parlement de milliers et de milliers et de milliers d'amendements pour bloquer le débat, justement.
Ils sont contre,
parce que c'est ça qui va se passer.
Mais c'est parce que le problème, c'est que on a été habitués, on nous a habitué l'esprit à ce qu'il y ait une majorité députés de députés macronistes qui étaient des Playmobil qui étaient là pour apposer leur vote sans discuter et aveuglément. Et aujourd'hui, ce temps, il est révolu. Et c'est
la
un
NUP
retour.
Ne veut pas le débat. La NUP veut bloquer pour
exactement.
Aujourd'hui, c'est un retour au réel. D'accord. C'est un retour à la démocratie.
Okay. Stop. Stop. Je voudrais qu'on prenne tous les auditeurs qui nous appellent. Ils sont très nombreux. Bon, on pourra pas les prendre tous, mais je voudrais qu'on en entende en tout cas quelques-uns et parmi eux. Il y a Irvine qui nous appelle de Cugan en Loire-Atlantique et qui est ouvrier viticole. Bonjour Irvine.
Bonjour Estelle.
Bonjour.
Irvine, on bonjour. Parle de ce février noir eh bien, qui va peut-être arriver dans, d'ici quelques jours. Est-ce que vous, vous soutenez le mouvement des grévistes et des syndicats?
Ah oui, je soutiens à fond. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je suis avec eux et puis s'ils bloquent tout mois de février, ça ne me dérange pas non plus.
Et vous êtes prêt vous aussi à aller dans la rue Irvine?
Bah après je verrai, mais malheureusement je suis ouvrier viticole, je gagne pas des 100 et des 1000, donc perdre un jour de travail c'est toujours compliqué, mais si je peux j'irai, oui.
Et vous pensez que si vous êtes extrêmement nombreux dans la rue, extrêmement nombreux à penser comme vous, Irvine, le gouvernement peut reculer?
Oui, et puis en plus le gouvernement il a bien fait son calendrier, parce que du coup il mise sur le fait qu'il y a les vacances qui arrivent pour une démobilisation. J'entends souffler là, mais je sais pas si...
Non, non, ça me fait rire ce que vous dites, oui, effectivement, mais après, de toute façon, en même temps, s'il y a mobilisation de la SNCF pendant les vacances, ça va empêcher aussi des Français de partir en vacances et ça gênera de toutes les manières.
Ben, je suis bien d'accord, ça discrédite le mouvement, mais par contre, qui c'est qui a accéléré le mouvement pour que ça se fasse dans le plus petit... Enfin, secteur de l'année où il y a genre 5 semaines d'école et oui. Après c'est directement les vacances, alors que bizarrement, entre le mois de mai et le mois de juin, il y a 2 mois. Donc, pour éviter de bloquer, pour pouvoir parler sereinement, ça aurait peut-être été plus simple pour le gouvernement de M. Macron de faire ça là. Mais bon, c'est plus facile de jeter des crédits sur la SNCF et sur le reste en disant que c'est eux qui bloquent pendant les vacances. Mais c'est pas eux qui ont le temps de. Qui établissent le temps parlementaire. Hein. Enfin, je ne crois pas.
Exactement. Merci Irvine en tout cas d'avoir été avec nous. Irvine qui fait partie de ces 2/3 de Français oui. Qui sont donc pour un durcissement du mouvement. Eric également nous appelle de Parentis en Borne dans les Landes. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Eric, vous êtes cheminot depuis 27 ans. Est-ce que vous approuvez vous ce mouvement de grève à la SNCF les 7 et 8 février prochains?
Mais j'approuve comme je pense tous les Français devraient approuver, mais pas que le mouvement des cheminots. C'est-à-dire que tous les Français qui sont tous attachés à la retraite, ils doivent en ce moment commencer à réfléchir à des actions, des manifestations les week-ends quand ils travaillent et qu'ils peuvent pas faire grève, montrer qu'ils sont vraiment, vraiment tous attachés à une retraite le plus tôt possible. Moi, ça fait des années que je manifeste, fais grève pour à chaque réforme et en réclamant 60 ans pour tous et 37 ans et demi pour tous. Il y a de l'argent pour payer ça.
Il y a plus d'argent.
Il y a l'argent des Français, ça c'est clair. Ben, ça c'est vrai. Pour vous retraite à vous, il y a l'argent des Français.
Laisse parler Eric, enfin.
L'argent des Français, c'est l'argent de tous les citoyens.
Ah non. Parce que moi, ma retraite, je la finance moi-même. Vous, c'est avec l'argent des Français, monsieur.
Eh bien, alors, donc vous êtes indépendant, donc vous avez fait des choix.
Non, je suis pas indépendant, monsieur. Mais non, c'est-à-dire que vous avez une retraite spéciale qui est déficitaire et qui est financée avec mes impôts. Ça, c'est une réalité.
30 milliards d'euros par an. Voilà,
c'est tout. Mais laissez parler Eric, enfin, attendez.
Moi, je vous connais pas. Vous venez de me dire, je me la finance moi-même. Donc si vous la finissez vous-même, c'est que vous n'êtes pas salarié. Et
non, si je suis salarié, mais sauf que... Excusez-moi, non, je vais répondre à monsieur.
On ne fait pas un débat sur ta retraite.
Stop. Tant que citoyen, je paye la retraite spéciale de monsieur.
Attends, alors
voilà, le régime spécial
Eric,
de monsieur.
Eric, on va se remettre sur le débat. Attendez, Eric, bon, juste. C'est... Eric, est-ce que vous serez en grève, vous, les 7 et 8 février prochains?
Alors moi, je suis en pré-retraite. Donc je suis un vénard, j'ai de la chance de pouvoir... À espérer, si ma santé me le permet, de vivre quelques années à la retraite et de pas arriver comme ce que le président voudrait, c'est-à-dire que tout le monde à 65, 66, 67 ans parte avec une retraite directement, avec une nouvelle caisse de retraite qui serait une caisse en bois. C'est pas la société que je veux pour mes enfants. C'est pas la société que je veux pour nos compagnes de, si on parle des cheminots, nos compagnes souvent bossent dans le privé. On veut pas que le travail se termine par une caisse en bois et on veut avoir une caisse de retraite qui nous permette de partir et de profiter un peu des enfants, des activités extra-salariales et puis voilà, le nombre de...
Vous partez à quel âge, Eric?
Moi, je vais partir à 56 ans.
Ah oui, ça c'est, oui, c'est, évidemment, c'est...
Donc, c'est de la chance, mais...
Oui, alors, bien sûr, mais vous avez raison de le dire.
À celui ou ceux qui pouffent, je vais expliquer quelque chose.
Personne ne pouffe, Eric.
Je pars à... Non, alors, donc je vais juste expliquer une petite quelque chose. Je pars à 56 ans, mon contrat de base, je devais partir à 50 ans, c'était exceptionnellement magnifique. Mais c'est pas cadeau. C'est-à-dire que pendant ces 27 dernières années, j'ai travaillé les samedis, les dimanches, les jours fériés.
Moi aussi.
Mais tant mieux. Mais donc, du coup, si vous avez eu un métier pénible, vous devriez partir avant 67 ans. C'est tout ce que je vous souhaite.
Mais non seulement c'est pas cadeau. Excusez-moi,
je voudrais terminer.
Allez-y.
Je ne pars pas avec une retraite pleine. Avec toutes les réformes précédentes, si je voulais avoir ma retraite pleine, je devrais partir à 63 ans pour avoir mes 43 années.
C'est ça, c'est votre choix.
Donc,
c'est
un choix. Eric, entendre que voilà.
Elle est de combien votre retraite là, le fait de partir à 56 ans, parce que vous dites que c'est pas à taux plein, donc.
Le montant va paraître pour certains très important. Après, pour d'autres, certes, je pars avec une retraite qui va me permettre, même en partant en avance, j'ai 2000 euros de retraite.
D'accord.
Donc, partir avec 2000 euros. Donc, une fois que je vais payer mon crédit, parce que j'ai encore 25 ans de crédit sur ma baraque, je vais pas vivre royal, mais je vais
Il faut quand même expliquer que les régimes spéciaux aujourd'hui sont financés à hauteur de 30 milliards d'euros par an. Par l'État pour pouvoir payer la situation de monsieur et quelques autres.
On n'entend plus Eric, mais en revanche, les nouveaux entrants à la SNCF, ils sont comme les autres, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficieront pas.
Ça s'appelle la fin des régimes spéciaux.
Exactement. Merci à Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce débat. Un autre Eric, tiens, nous appelle de Rambouillet. Il est en pré-retraite, tiens, Eric, justement. Bonjour Eric.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Eric. Vous êtes en pré-retraite, Eric. Alors, est-ce que vous soutenez les syndicats sur ce coup-là?
Non du tout, et Eric précédemment a bien de la chance de partir à 56 ans avec 2000 euros de retraite. Hein.
Moi,
j'ai travaillé 40 ans de ma vie à température moins 28 degrés, et je vais partir à 62. Donc moi, désolé, les gens de la SNCF, il faudrait qu'ils se rapprochent un peu du privé et de voir comment on gère une entreprise. 46 milliards de dettes depuis 2020 pour la SNCF, c'est moi qui vais payer. Vous voyez ?
Exactement.
C'est moi qui vais payer. Moi, mon fils sera obligé de partir en retraite 5 ans, 7 ans de plus que ces gens-là. Donc moi, je dis que ces gens-là, que ça soit Total ou SNCF, ce sont des privilégiés du système, ces gens-là. Ils ne savent pas ce que c'est que de bosser.
Ah, mais là, vous êtes en train de monter les Français les uns contre les autres, en fait, Eric.
Je veux l'égalité. Écoutez, moi, j'ai 60 ans, j'ai bossé toute ma vie. Vous voyez, moi, je pense à mon fils. Là, je veux dire, partir en retraite, là, comme j'entends un gars de chez Géolis partir à 50 ans. Mais il rêve, le gars, ou quoi, lui? Comment voulez-vous partir à 50 ans aujourd'hui?
Oui, ça paraît compliqué, oui.
C'est complètement incohérent. Qui plus est, ces gens de la CGT, là, juste pour rappel, vous savez, Sudrail, c'est eux qui ont coulé la SNCM, la fameuse société de carrosserie pour la Corse. Pourquoi? Eh ben, à cause de la CGT, vous voyez? Quand on est sur un poste à 4 et que normalement on est 1, ben, il faut gérer une entreprise. Et ces gens-là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Vous voyez, là, la SNCF en 2022, c'était 28 jours de grève. Un jour de grève, ça coûte 20 millions d'euros. C'est moi qui vais payer.
Oui, mais Eric, en fait, là, on parle de la SNCF, mais attention, hein, il n'y avait pas que des cheminots dans la rue le 19
absolument,
janvier. Donc,
absolument.
Là, tout le monde se focus sur la SNCF parce qu'effectivement, il y a eu des avantages, mais qui ne sont plus là maintenant. Donc, oui, il y a des avantages. Oui, il y a des gens à la SNCF qui partent, effectivement, comme
mais
Eric.
Parce que c'est eux qui prévoient des grèves reconductibles.
Oui, c'est eux
qui
ont les moyens.
C'est eux qui ont le mode d'expression le plus fort et le plus radical. C'est tout.
Il y a le mélule.
Voilà. Mais je veux dire, parler aujourd'hui du système de retraite des gens de la SNCF. Moi, sincèrement, ça m'intéresse pas. En revanche,
ça coûte 30 milliards par an.
Non. Moi, ce qui m'intéresserait davantage, parce que j'ai entendu le monsieur dire que c'était une réforme égalitaire, c'est pas la réforme des retraites sur les femmes. Ça m'intéresserait davantage, par contre.
Mais on va en parler.
Et de dire à l'instar de ce qu'a dit. Pourtant, je suis pas souvent d'accord avec elle, mais là, pour le coup, elle avait raison. Mathilde Panot hier soir, elle l'a dit. C'est une réforme. Mais il y a pas qu'elle qui l'a dit, parce qu'il y a aussi le ministre Franck Riester qui l'a dit.
Référence Louis Boyard, Mathilde Panot.
Non, je suis désolée. Non, je parle de Franck Riester, je parle même de Guérini, qui l'a confirmé. Mais c'est eux qui portent la réforme, enfin. C'est eux qui portent la réforme, et c'est eux qui viennent nous dire, oui, les femmes seront davantage pénalisées.
Pas comme si elles ne l'étaient. Les femmes qui n'ont pas eu d'interruption de carrière, en fait, c'est seront ça. Plus pénalisées.
Oui, voilà. Mais comme si elles
les
ne l'étaient.
Les femmes à faible salaire seront.
Comme si elles ne l'étaient. Oui, mais ça concerne combien de femmes?
Beaucoup.
Beaucoup. Comme si elles ne l'étaient déjà pas assez, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il y a. Donc, un écart de salaire de 25%.
Et l'écart de vie des hommes vivent au moins 8 ans de moins que les femmes et profitent 8 ans de moins de la retraite.
Ce n'est pas un argument d'espérance de vie. Ce n'est pas un. Mais par contre, ce qui n'est pas discuté, ce qui n'est pas discutable, c'est l'écart de pension qui est de 40%.
Oui, et qui va se réduire avec la nouvelle réforme.
De combien? De 1 point dans les prochaines années.
Détendez-vous si vous allez mourir.
Et le débat parlementaire va peut-être pouvoir corriger ça.
Non, c'est pas possible parce que c'est le corps même. C'est le corps même de la réforme.
Tu sais comment ça va se passer le débat parlementaire?
Oui, je sais très bien parce que ça va durer 20 jours.
Excusez-moi.
Et qu'à l'issue des 20 jours, la loi elle va passer sans vote au Sénat.
Yael, déjà, quand on fait de la radio, ce serait bien de parler dans votre micro. C'est toujours plus intéressant. On va continuer sur ce débat parce que vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler si vous voulez parler de la retraite des femmes, tiens, justement, qui est très discutée en ce moment. Si vous êtes prêts à bloquer le pays, comme c'est le cas de Samy, qu'on va prendre en ligne dans un instant, bah, écoutez, appelez-nous au 3216 ou alors vous nous envoyez des messages, bien sûr, sur l'appli RMC. Faut-il s'attendre à un février noir? On continue le débat dans un instant dans Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 31 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. On est avec autour de la table aujourd'hui Rémi Barré, le journaliste Thierry Moreau, l'ancienne avocate Yael Mellul et le journaliste Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16. On parle de ce février noir qui se profile avec l'appel à la mobilisation, notamment à la SNCF de la part de la CGT et Sudrail, ces deux syndicats qui appellent également à un blocage reconductible chaque jour à partir de mi-février. Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Vous avez énormément de messages, Rémi, sur l'appli RMC.
J'ai notamment ce message de Bob, pardon, je ne retrouvais pas son prénom, Bob, qui nous écrit sur Direct Studio. C'est un peu le débat qu'on avait juste auparavant avec l'agent SNCF qui est en pré-retraite. Demandons aux Français s'ils sont pour tous les régimes spéciaux. Et vous verrez s'ils sont encore 68% à soutenir le mouvement social actuel. Voilà, il y a pas mal de messages sur la question. C'est vrai que ça a pas mal irrité cette question du soutien massif des Français à l'idée d'être contre la réforme des retraites. Maintenant, quand on plonge vraiment sur la réalité des faits, quand on voit qu'il y a une différence de traitement entre les différents secteurs, notamment le public et le privé.
Ah bah oui.
Puis lorsqu'on leur dit aussi, parce qu'il y a cette petite musique qui revient, qu'en février il n'y aura peut-être pas de transport, etc. Là, la vie se modifie un petit peu.
On verra.
Thierry Moreau, il y a une colère dans le pays, ça on la ressent.
C'est
clair. Mais finalement, est-ce que cette réforme, quelque part, même s'il faut la faire, elle n'est pas ratée? Parce qu'on voit que toutes les catégories sociales se rebiffent. Et quand Rémi parlait effectivement de la différence entre le public et le privé, le gouvernement a quand même la chance que le privé ne se mobilise pas. Il ne se mobilise pas. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le privé, tu ne peux pas faire grève, sinon tu as une journée de paye en moins. Mais c'est quand même hallucinant, il y a encore des différences comme ça, et que le gouvernement ne se soit pas attelé à gommer ces différences.
Elle est ratée à plusieurs titres. Elle est ratée parce que moi je pense que la première réforme, qui était une réforme où 1 euro cotisé donnait 1 euro de pension, était une bonne réforme. Compliquée à expliquer, mais une bonne réforme.
La réforme de 2019, tu veux dire?
Absolument.
C'est abandonnée par le gouvernement.
C'est la capitalisation.
À cause du Covid, mais surtout par opportunité politique, je pense. La deuxième chose, c'est qu'elle est ratée en termes de communication. Aujourd'hui, il y a un service qui s'appelle le service d'information du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai essayé d'aller sur leur site pour voir quelle est la situation.
Il y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre en service.
En tout cas, je pense que l'explication n'est pas là. L'explication en amont n'est pas là. Sans parler des dissensions entre le gouvernement, puisqu'on a un Riester qui dit un truc démenti par la première ministre au cœur de l'Assemblée.
Même le gouvernement ne comprend pas la réforme. C'est quand même embêtant.
Donc c'est compliqué. Troisième chose, le débat parlementaire, s'il n'est pas pollué par les députés de la NUPES qui prévoient quand même de déposer 75 000 amendements. Ça veut dire que des amendements, on pourrait en déposer
1000 amendements par député.
Voilà.
Non,
des amendements utiles, on pourrait en passer un. Est-ce que je peux terminer?
Oui.
Des amendements utiles, on pourrait en passer un certain nombre pendant ces 20 jours. Des amendements contributifs qui pourraient améliorer. Moi, je pense que ce texte doit être amélioré pour gommer effectivement tout ce dont on a parlé là. Les différences entre hommes et femmes, les carrières longues, la pénibilité pas assez prise en compte, le travail des seniors sans contrainte aujourd'hui pour les entreprises qui n'en emploient pas, etc., etc. Je pense qu'il y a encore la place. Mais c'est vrai que c'est mal embarqué et qu'on risque d'avoir une minorité au mois de février parce que Sudrail et UNSA, ça reste une minorité qui vont bloquer le pays. Et là, je peux vous dire que, à mon avis, la population sera moins derrière les manifestants à ce moment-là.
Yael Mellul, vous dites c'est bien que LFI dépose des milliers d'amendements, mais quelque part c'est contre-productif parce que les Français, ils ont envie de quoi? Ils ont envie que cette réforme, bon, soit elle ne passe pas, mais soit si elle passe, elle soit bouge. Mieux ficelée. En tout cas, il y a moins d'inégalités. Le fait de déposer des milliers d'amendements, ça va faire qu'en fait, va même pas pouvoir y avoir de débat. Donc c'est contre-productif. Exactement. Quelque part, c'est dommage.
Alors déjà, il faut pas inverser les responsabilités, d'accord? Cette technique, on va dire, qu'on est obligé aujourd'hui d'appeler d'obstruction, c'est en réaction par rapport au fait que l'opposition est opposée à cette réforme des retraites.
Bah on peut aussi d'accord citer la fin de la récré. Deuxième,
et le problème essentiel qui va se poser, et moi je pense que c'est justement pendant les débats à l'Assemblée nationale que là on risque d'avoir une véritable explosion sociale, c'est quand le gouvernement va dégainer le 47-1. À l'issue des 20 jours de débat.
S'il le dégaine,
ou s'il dégaine un 49-3.
Ben oui, mais si t'as 60 000 abonnements, il n'y aura pas de débat.
De toute manière, en 20 jours, pour une réforme aussi importante, mais ce n'est pas possible.
Si 20 jours, on peut discuter.
Ça fait 6 ans qu'on en discute.
Si on peut déposer 75 000 abonnements, on peut déposer 75 000 abonnements constructifs.
Alors, non, parce que là, déjà, le gouvernement, déjà, a lui-même du mal à l'expliquer. On a l'impression que parfois des ministres découvrent des dispositions, d'accord, quand ils viennent sur des plateaux, je suis désolée. Et le texte a été présenté au Conseil des ministres avant-hier. L'étude d'impact a été soumise avant-hier. Et ce sont dans les détails de cette réforme que vont se nicher les plus grosses difficultés, notamment les dispositions par rapport aux femmes. D'accord. Donc ça mérite un peu plus que 20 jours de débat à l'Assemblée nationale.
Fred Hermel, est-ce qu'il y a quand même eu en fait finalement une grave erreur du gouvernement, le gouvernement qui aurait dû expliquer sa réforme avant de l'exposer?
Ce qu'il y a de pire avec ce gouvernement, c'est qu'en fait depuis le début, celui-là, celui d'avant, depuis l'arrivée de Macron en 2017, c'est que comment des gens aussi modernes, Macron c'est le président moderne, etc., sont aussi mauvais en communication. C'est jamais didactique, ça n'explique jamais clairement les choses. Souvent parce que ça change d'avis en deux jours. Les messages vont dans tous les sens. Et puis moi, je suis désolé, mais Franck Hester, mais c'est hallucinant, c'est dingue. Quand même, il y a quand même un minimum de cohésion et de solidarité gouvernementale, quand même.
Enfin, bravo
aux journalistes. Je crois que c'était Public Sénat qui ont poussé Franck Hester dans ses retranchements. En tout cas, en tant que la capacité politique de Franck Hester, elle est quand même pas géniale, parce qu'à un moment, là, c'est évident.
Bah non, il a juste dit la vérité, en fait.
S'il te plaît. Hein, vous avez le pouvoir, mais on peut en passer une petite quand même. C'est de l'humour, parce que c'est une amie. Non, mais c'est-à-dire que là, il a ouvert un boulevard pour que puisse s'engouffrer l'opposition dans ce truc, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'on a l'impression que, je sais pas, il pouvait pas y avoir des rencontres gouvernementales, histoire que la première ministre, que Olivier Dussopt, explique à tous les ministres ce que ça va être, les préparer à aller sur les plateaux pour défendre la réforme des retraites.
Les conseillers comme.
Il aurait pu demander à Mathieu et Carlito de faire un truc, c'est vraiment dommage.
Non, mais dans la Startup Nation, ils sont pas préparés politiquement à défendre cette réforme qui, à mon avis, est pas si mal que ça.
Alors, je voudrais qu'on prenne Samy en ligne. Il nous appelle de Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise. Bonjour Samy.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Samy, vous êtes pour un mouvement de plus en plus dur en fait.
Exactement, moi j'ai 42 ans, je travaille dans une banque, je suis dans le secteur privé.
D'accord.
J'ai fait ma petite simulation, je vais partir avec une retraite à taux plein à 64 à peu près, avec à peu près 1700 euros de retraite. Bon, mon cas, c'est pas le plus dramatique.
Enfin, vous avez 42 ans, donc vous pouvez encore changer de boulot, gagner plus, etc. Vous avez encore un petit peu de temps.
Oui, bien sûr, j'ai un petit peu de temps. J'ai à peu près encore 20-22 ans à faire. Mais je soutiens à 100% ce mouvement. Et je suis même un peu plus radical que ça pour faire bouger le gouvernement. Pour faire bouger le gouvernement, c'est pas une manif tous les mois à manifester de 14h à 18h de Bastille à République avec des pancartes. Aucun gouvernement au monde ne va céder sur un mouvement comme ça. Les syndicats, je suis 100% d'accord avec eux, même s'ils sont pas représentatifs, mais je suis d'accord avec les deux tiers des Français. Jusqu'où on va aller? Et moi, ce qui me rend dingue en plus, c'est les contradictions d'Emmanuel Macron. Il y a à peine 3 ans, il disait totalement l'inverse. Le rapport du corps précédent, il dit qu'on n'en a pas besoin.
Et tout de suite. Oui, mais il y a beaucoup de choses dans son rapport.
On n'en a pas besoin tout de suite.
Non, il a... juste 2 secondes. Idéologiquement, moi je suis... pour moi, nos aînés, les personnes âgées entre guillemets, enfin, je suis pour partir à la retraite en bonne santé et avec une retraite décente.
Mais ça tout le monde.
Pour moi, c'est quelque chose de très important.
C'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas pour qui vous avez voté, mais en tout cas, ce qui se passe là, il a pris personne en traître. Hein.
Non,
mais la réforme des retraites, c'était le point capital de sa campagne. Donc,
2019, 4 semaines de grève à la SNCF et à la RATP. Pour quelle raison? C'était quoi le sujet de ces grèves? La réforme des retraites.
Et comme d'hab.
Présentée par Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est pas la première fois, même si le projet n'est pas le même, c'est pas la première fois qu'il présente un projet de réforme des retraites et que la réaction est identique.
C'est un point qui est extrêmement très important. Rapide, très important. De dire que les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté pour la réforme de la retraite, c'est vraiment une torsion intellectuelle, mais vraiment d'une malhonnêteté. Mais alors, sans nom. Emmanuel Macron sait très bien, il l'a dit le soir du second tour. Il l'a dit, il sait très bien que la majorité des gens qui ont voté pour lui, c'était pour faire barrage à l'extrême droite. Bah c'était
ça, c'est le problème des gens. Hein.
C'était, malhonnête. Non, pas du tout.
Mais on savait que c'était retraite à 64 ans. Aussi élu parce que des gens voulaient faire barrage.
Une femme comme Mathilde Panot, par exemple, c'est qui a voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, pensait sincèrement qu'elle a mis un blanc-seing sur le programme d'Emmanuel Macron. Mais ça veut dire quoi?
Non, mais ça, Yael, tu peux pas dire ça.
Je suis désolée.
Il a été élu démocratiquement.
Il a été à la tête du premier tour à 27%. Ce n'est pas la légitimité.
Mitterrand avait 22 au premier tour.
Ce n'est pas la légitimité de son élection qui est en cause. C'est pas ça. Je suis pas là pour remettre en cause sa légitimité. Je suis là pour remettre en cause le fait qu'on dise aujourd'hui, on a voté pour Emmanuel Macron, donc on se tait. C'est comme si c'est un chèque en blanc qu'on lui a donné. Ce n'est pas vrai. Hein.
Alors, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il s'attendre à un février noir? Ça donne quoi, Rémi?
Oui, c'est oui pour 59% des personnes qui sont prononcées sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est un peu la même chose que le précédent sondage.